Denis Gravel!
Yeah!
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Hey, lendemain d'éclipse!
Oui!
Toi, chose!
Hey, c'était exceptionnel!
Hey, toi, de ta vue ici, t'étais assis où je suis assis en ce moment? On voit pas grand-chose, hein?
C'était quoi le feeling pour nous autres dans le studio en regardant dehors du mauvais côté? À un moment donné, j'ai eu le feeling que j'avais des lunettes de soleil alors que j'avais pas de lunettes de soleil. Ça a duré 2 minutes et je vais reprendre la superbe analogie d'un auditeur qui nous a texté hier. Finalement, l'éclipse, c'est comme la première baisse. Tu te fais un build-up pendant des semaines, ça dure 5 minutes, puis après ça, tu te dis « Bon, ben c'était ça qui est ça, je m'en retourne chez nous.
» Trop vite, trop peu.
Hey, ouais. Je l'ai déjà dit en nombre, fait que j'ai pas peur de me répéter. Et que j'étais pas bon ma première fois. Et que je m'excuse, Kelly.
J'ai pauvre Kelly.
Pauvre Kelly.
Mais y a-tu quelqu'un qui a été bon à sa première fois?
Moi.
Ouais. Wow. Ouais.
Le mâle alpha.
Masturbation compte pas, hein. On parle vraiment là, de deux personnes qui font la chose.
Okay.
Hey, Denis, on met l'éclipse de côté. Moi, je veux absolument avoir ton opinion, grand fan de lutte que tu es, sur cette fin de semaine qui était WrestleMania 40.
Hey my God, c'est quoi? C'est 210 000 personnes qui sont allées voir de la lutte à Philadelphie pendant une fin de semaine. On parle de 5 événements, mais principalement... 2 soirs de WrestleMania, samedi et dimanche, dans le stade des Eagles de Philadelphie. 72 000 personnes par soir, c'est énormément d'amateurs de lutte. Puis, c'est le plus gros gala de l'année. Donc, l'idée, c'est que les 72 000 personnes qui sont dans le stade sortent de là avec un sourire d'en face. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pour vous expliquer pourquoi WrestleMania 40 était important... On vient de changer le gouvernement de la WWE et le nouveau... Enfin, parlons de l'ancien gouvernement. La WWE, ça appartenait à un être ignoble qui s'appelle Vince McMahon, qui, à force d'avoir du pouvoir, à force d'avoir de l'influence, l'a utilisé à de multiples raisons odieuses. Il est présentement dans des poursuites d'agression sexuelle où le descriptif est hallucinant. Le nouveau propriétaire de la WWE, c'est TKO Enterprise, qui détient entre autres la UFC. Vous dire que The Rock, Dwayne Johnson, est sur le board des directeurs. Mais qui dirige les opérations et qui écrit les histoires de la WWE, c'est un gars qui s'appelle Paul Levesque. Qui a pris le contrôle en fin de semaine de la machine pour une première fois, sans voir Vince dans le collimateur. Et le résultat, c'est qu'on a eu un show extraordinaire. On a eu des lutteurs qui étaient contents d'être là. Les anciens sont revenus. Il y a eu, écoute, l'Undertaker était là, John Cena était là, mais jamais pour voler le spotlight. Toujours pour mettre en évidence les talents qu'il fallait mettre en évidence. Cody Rhodes est devenu champion. Nos Québécois ont encore bien fait. Sami Zayn est devenu le nouveau Rocky Balboa de Philadelphie en terrassant Gunther.
C'est intercontinental.
Ça a vraiment été une belle fin de semaine pour les amateurs de lutte. Et je vais reprendre les mots que The Rock a utilisés hier pendant justement l'émission Raw. Wrestling is cool again. Ouais. La lutte est redevenue cool en fin de semaine.
Je me sens un petit peu capable de te poser la question suivante après tout ce que tu viens de dire et les stats que tu viens de me donner. Mais je te pose quand même. Est-ce que la lutte professionnelle est en 2 parties?
Ouais.
Est-ce que la lutte professionnelle qu'on connaît en 2024 a plafonné? Est-ce qu'on peut devenir plus big que c'est en ce moment? Et 2e question, est-ce que c'est bon pour la lutte professionnelle qu'il y ait ce monopole-là qui s'appelle la WWE?
Bien, présentement, il y en a de la compétition avec la AEW, ce qui est sain pour les lutteurs qui peuvent se négocier des contrats, qui peuvent obtenir des meilleures conditions, des meilleurs contrats, des meilleurs salaires, et ainsi de suite. La AEW n'arrivera jamais à la cheville de la WWE.
Je m'attendais une popularité plus grande pour la AEW.
Bien, on l'a vu à Québec, hein, c'est difficile. C'est pas de la lutte qui est diffusée dans tous les marchés de façon régulière. Puis, il faut pas oublier que c'est une compagnie qui a juste 4 ou 5 ans d'âge, alors que la WWE existe depuis des décennies, puis c'est rendu quelque chose de tellement gros que tu n'auras jamais un égal au niveau de ces rivalités. Par contre, le fait que Vince McMahon a été balayé du revers de la main, Triple H, au fil des années, a montré qu'il avait une tête de lutte impressionnante. C'est lui qui a signé, à un moment donné, plein de lutteurs indépendants, talentueux, qui ne fitait pas dans le moule Hulk Hogan, gros bras, petite tête ouais. des années 80. Vince McMahon tripait là-dessus. Il a signé Kevin Owens, il a signé Sami Zayn, il a signé Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Asuka. Ça, c'est tous des lutteurs qui ont été amenés par Triple H. Et là, ben, on voit que lui, présentement, écoute beaucoup les gens. Ça aurait pu être un WrestleMania abominable parce qu'on se dirigeait vers une finale entre The Rock et Roman Reigns. Et le public ne voulait pas ça. Le public voulait voir Cody Rhodes devenir champion. Ils ont écouté, ils ont remodelé l'histoire, tout à l'honneur d'ailleurs de The Rock, qui lui aussi a une tête de lutte tout à fait admirable. Il s'est dit, OK, le monde ne veut pas me voir là, je vais faire le méchant. Je vais épouser le rôle qu'on me demande d'épouser et je vais laisser la place aux jeunes, jeunes entre guillemets, bien sûr, Cody Rhodes, puis ça a donné une histoire hallucinante, puis ça a donné un WrestleMania. C'est le début de quelque chose de le fun. Tu sais, tu dis, est-ce que ça va plafonner? Ça peut pas être mieux que ça. Tous les arénas sont sold out pour la WWE depuis plusieurs mois et ça va vraisemblablement se poursuivre pour les prochains mois et peut-être même pour les prochaines années. La lutte est le fun, on aime ça de même.
Je veux t'entendre sur Stephanie McMahon.
Oui,
que, ça c'est. Ouais, ben, c'est parce qu'elle a fait une apparition au début de la deuxième soirée de WrestleMania pour vanter la nouvelle ère et vanter son mari qui est Triple H, mais au détriment de tout ce que son père a fait.
Les coulisses de la lutte, c'est comme dynastie, les amis, hein, parce que pour vous expliquer, Stephanie McMahon est la fille de Vince McMahon. Ouais. Elle est mariée avec Triple H, alias Paul Levesque, qui est le nouveau propriétaire. Stephanie McMahon, quand elle a su les trucs scabreux dans lesquels était impliqué son père, elle a quitté la WWE. Elle vient juste de revenir. Pourquoi? Parce que son père n'y est plus. Puis elle est allée le planter en avant de 72 000 personnes en disant que des 40 WrestleMania auxquels elle a pris part, c'est celui qui est le plus important parce que c'est le début de l'ère Paul Levesque. Mon mari, mon conjoint. C'était une façon de dire « fuck you, papa ». Et bon débarras. Les coulisses de la lutte, souvent, sont plus fascinantes à suivre que ce qui se passe sur le ring. T'sais.
C'est le fun aussi. Lançons des fleurs à la lutte locale aussi. Puis on en parle souvent ici à l'émission. On en parle à Boulevard 102.1. Je suis allé voir un gala de lutte de la NSPW au Diamant.
Oh yes!
J'ai été tellement impressionné. C'est le fun de voir aussi que cette popularité-là de la WWE, de la lutte professionnelle, bien, ça découle quand on le fait comme du monde, quand on le fait de belle façon. Cette popularité découle dans le produit local.
Et le talent est là, il est très bien encadré ici, la gang de Steve Boutet de la NSPW. Il y a des gens qui, demain matin, dans cette gang-là, pourraient évoluer à la WWE, pourraient évoluer à la AEW, comme le font les Evil Uno de ce monde, les Kevin Owens, les Sami Zayn, et ainsi de suite. On a du talent comme ça dans notre cours, une fois par mois au Diamant, puis une fois par semaine de l'autre côté, au Centre Horizon. On est chanceux, on est privilégié, puis c'est possible de se rendre en haut.
Oui, bien, à preuve, Zach Patterson, le diamant de la NSPW, a lutté en sous-carte à la AEW au Centre Vidéotron.
Tout est possible.
Oui, je l'ai vu, moi, au diamant. Je l'aime bien. Je veux qu'on parle d'hockey un petit peu, parce que Denis m'a posé une... Puis là, vous allez dire, ouais, check les deux fans des Bruins, ils n'ont même pas la réponse à cette question-là. C'est parce que, mathématiquement, je ne comprends plus rien dans le classement de la Ligue nationale d'hockey, puis ça change tout le temps. Moi, j'aimais bien le 1 contre 8, 2 contre 7, etc.
C'était simple.
Denis m'a demandé tantôt, pendant qu'on se donnait une bonne collade de bromance, on joue contre qui? Là? Si les séries commençaient là, les Bruins jouent contre qui? Mes deux whiz du sport, ça ressemble à quoi?
C'est le Lightning.
Ouais. Parce que comment ça fonctionne?
Dès que j'aille la nouvelle formule.
Comment ça fonctionne, là? Ça marche maintenant par division où les équipes 2 et 3 au classement de la division se pognent entre elles.
En toute honnêteté, là, ça fait 4 fois que je t'entends l'expliquer puis je comprends pas plus.
Mais Denis, tu regardes le classement. Tu classes par division. Ouais. Les équipes 2 et 3 de la division
se pognent.
Je sais
même pas exactement qui est dans chaque
là,
division.
Après.
Dans la division Adams, nous autres.
Là, ça devient plus complexe parce qu'après ça, il faut que tu prennes le premier des divisions, puis tu regardes, OK, lequel parmi les deux premiers a le plus de points. Ici, prenons l'Est, les Rangers ont plus de points que les Bruins. Donc, les Rangers vont pogner la deuxième équipe repêchée.
C'est-à-dire?
Les Red Wings, présentement. Et les Bruins vont pogner la première équipe repêchée.
Le Lightning.
Quel Lightning?
Le
Lightning. En ce moment.
Ouais.
Ayant que, tu sais, quand tu pognes le Lightning en partant.
Moi, j'ai décidé d'arrêter de regarder ça puis juste regarder les games. Hier, je regardais Ross sur un écran puis je regardais le match entre les Leafs et les Pingouins sur un autre écran. Ils ont étiré ça jusqu'à la prolongation. Les Leafs qui ont arracher un précieux point aux Penguins de Pittsburgh qui va peut-être faire la différence à la fin de la semaine, à savoir si la gang de Sidney Crosby fait les séries ou pas. On a du hockey incroyable.
Ouais. Je regarde Crosby aller. Oui. 19e saison de suite avec plus d'un point par match. Encore 40 buts. Il est rendu à 36 ans. Puis là, on vante toujours McKinnon, McDavid, mais je me dis, maintenant dans 20 ans, on se projette dans 20 ans quand tous ces gars-là vont avoir arrêté. Crosby ou McDavid vont avoir eu le plus gros impact?
Mon Dieu Seigneur, c'est tellement tough. Moi, j'ai grandi avec des parents qui me disaient « Ouais, c'est le fun, ton hockey, le kid, mais t'as pas vu Maurice Richard, t'as pas vu Guy Lafleur. » Et pourtant, j'ai vu Wayne Gretzky, j'ai vu Mario Lemieux, j'ai vu Ovechkin, j'ai vu Crosby, j'ai vu McDavid, j'ai vu... Tu sais, rétroactivement, je me dis, j'ai eu une vie d'amateur de hockey privilégiée parce que j'ai vu parmi les plus gros talents de l'histoire du sport. Et j'aurais tendance à être protecteur des miens puis de dire « Ah, ben là, il n'y a personne qui va toucher à Crosby puis il n'y a personne qui va toucher à Gretzky. » Mais j'ai vu mes parents faire la même erreur. Fait que je vais me laisser une marge, je vais me laisser une porte ouverte. C'est des discussions éternelles qui font que les pichets se vident puis qu'on reste de bonne humeur, mais il n'y aura jamais de réponse définitive à ces questions-là. Je trouve juste qu'on est chanceux présentement parce qu'il y en a du gros talent dans cette ligue-là. Puis on est une nation d'amateurs de hockey, même quand le hockey est plate, même quand s'il n'y a pas de grands joueurs de hockey, on va écouter le hockey quand même. T'sais, on écoute la F1 quand un des nôtres réussit, on écoute le tennis quand Eugénie Bouchard est cute, mais le hockey, cute, pas cute, bon, pas bon, on va l'écouter pareil. Puis je trouve que nos kids, présentement, sont chanceux parce qu'il y a des joueurs de grand talent qui vont marquer l'histoire. Plus ou moins qu'Ovechkin, plus ou moins que Gretzky, plus ou moins que Crosby, ça, on va s'ostiner là-dessus jusqu'à ce qu'on meure. Et après ça, ça va se poursuivre avec nos enfants. Mais présentement, ils sont privilégiés. Puis là, t'as le jeune Bédard qui va commencer à faire des miracles dans les prochaines années. Il y a du gros hockey qui se joue. Il y a de grands joueurs qui continuent de s'illustrer. Et il y a même des records qu'on croyait inaccessibles qui finalement vont peut-être tomber. Entre autres, le plus grand nombre de buts de l'histoire de la Ligue nationale. Ovechkin, peut-être qu'il va réussir à faire tomber Gretzky.
Puis peut-être Matthews qui va faire tomber Ovechkin.
Écoute,
ça, personne ne le voyait venir. Mais présentement, au rythme où Matthews score... Puis là, ça va être... Il peut
65
garder
buts,
ça, là.
Son 65e hier.
Ouais, exact. Là, c'est de voir, il va-tu être capable de maintenir ça, mais présentement, il score à un meilleur rythme qu'Alex Ovechkin après le même nombre de matchs.
Hey, on est-tu d'un bon segment? C'est l'enfer. Les amateurs de lutte ont eu WrestleMania. Le baseball majeur commence sa saison régulière. Les séries s'en viennent dans deux games. Les amateurs de basket, vous êtes en plein dans le crunch aussi. Le Masters dans les
prochains... Oui, le Masters en fin de semaine.
Mais oui, le sport, présentement, nous fait énormément de bien.
Tu as tellement raison quand tu sais qu'on est des grands fans de hockey, puis surtout quand tu dis pas bon, parce que les gens écoutent encore le Canadien.
Oui, puis on a eu de belles années avec les Nordiques aussi, avant qu'ils partent au Colorado. Quand tu marquais ces billets, le meilleur est à venir.
Ah, je vois pas ce que tu veux dire. Les Everett Sanipas de ce monde n'étaient pas bons.
Le 8e entraîneur-chef des Nordiques cette année, ça a été top.
Ça, c'est le même débat en plus que dans la musique. Hey, le jeune, ta musique que t'écoutes aujourd'hui, c'est de la boîte. Les bons bands, c'était dans le temps.
Mon Dieu, faut pas. On tombe facilement dans ce piège-là. Faut se faire attention.
Denis, c'est toujours un plaisir quand tu passes nous voir les mardis matins et on t'écoute du lundi au vendredi, l'après-midi, avec Véro et Audrey.
J'ai hâte de croiser Audrey cet après-midi. J'ai fait une découverte, un jeune artiste qui s'appelle Benson Boone. J'ai très, très hâte de lui en parler.
On écoute ça.
On s'agace parce qu'on s'aime.
Hey, après la pause, on jase avec le nouveau chef de l'opposition officielle à Lévis, Serge Bonin. Vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102.1, la radio qui t'envoie. Où ça? À San Francisco, c'était.
On s'arrête 2-3 minutes.